Bonjour à tout le monde. Je nous invite à ouvrir nos Bibles. Nous lisons trois portions, deux tirées de l'Ancien Testament et un troisième tiré du. Le deuxième et le troisième plutôt tiré du Nouveau Testament. Nous lisons d'abord dans Néhémie au chapitre 13. Nous partons du verset 1er au verset 9e. 13e chapitre de Néhémie 1. À 9. Dans ces temps, on lut en présence du peuple dans les livres de Moïse et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et les Moabites ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudît. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, les sacrificateurs Eliashib, établis dans les chambres de la maison de notre Dieu et parents de Tobija, avaient disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du moût et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif déplaisir. Et j'ai jeté dehors, j'ai jeté plutôt hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifiât les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Amen. Lisons aussi Galates au chapitre 5, verset 7. Au verset 9e, exclamation, parole pleine de tristesse qui sort de la bouche de l'apôtre qui avait sémé dans la vie des Galates et puis après quelques temps qui se rendu compte que tout le travail était en train de tomber quasiment en désuétude. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Terminons avec 2 Corinthiens chapitre 4 et nous lisons le seul verset 2. 2 Corinthiens 4, le verset 2. L'apôtre dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Une autre version dit, pas une conduite hypocrite. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Amen. Comme l'avons vu dans les bouts de papier que nous avons entre nos mains, les thèmes que Dieu a déposés dans mon cœur ce matin, c'est la chambre de Tobija. La chambre, d'autres versions disent la cachette, de Tobija. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire six choses concernant cette chambre. La première, c'est que tout le monde peut la voir sans que les autres ne soient au courant. Tout le monde peut avoir cette chambre sans que les autres soient au courant. Nous le verrons tout à l'heure. Murailles rebâties, temple reconstruit, on a tout nettoyé et Eliashib en cachette a placé Tobija, l'ennemi du peuple de Dieu. Les gens de l'extérieur avaient l'impression que tout allait bien, mais ils ne savaient pas que dans les parvis de l'Éternel reposait un ennemi farouche. Aide-moi à poser la question à ton voisin. As-tu une chambre dans ta vie réservée à Tobija? Que des gens que nous voyons prêchant l'évangile comme moi, zélés, condamnant les péchés, mais logeant Tobija. Chantant pour Dieu, nous faisant pleurer, mais ayant comme locataire Tobija. J'ai dit, tout le monde peut l'avoir sans que les autres, le commun des mortels, le sachent. Et Tobija, c'est l'image d'une double vie. Votre mari peut avoir Tobija, vous ne le savez pas. Votre femme peut avoir Tobija, vous ne le savez pas. Vos parents peuvent avoir Tobija. Femme, il est étonnant, tu peux vivre avec cet homme 20 ans, 30 ans, tu ne sais pas qu'il est accro à la pornographie. C'est un homme bien, mais tu ne sais pas quand il est au bureau, tout ce qu'il fait devant son ordinateur. Les enfants peuvent avoir l'impression qu'ils ont un papa dur. Quand il vient à la maison, il les trouve devant la télé en train de suivre quelques images. Les lèvres s'approchent, appellent, qu'est-ce que vous regardez? Mais lui-même au bureau, à part les œuvres de travail, ses sites préférés, c'est www.sexe.com. Il est tellement devenu spécialiste, il sait comment prendre la souris et passer à autre chose. Quand des intrus qu'ils ne doivent pas voir, qu'il est en train de regarder, arrivent. Deuxième chose concernant cette chambre, celles et ceux qui l'ont font tout pour qu'elle ne soit pas connue des autres. Et la plupart des fois, même quand quelques indices commencent à démontrer qu'elle est là, on nie sa présence. On jure, il n'y a rien entre moi et cette jeune fille, je te jure. Ce n'est qu'une amie du travail. Troisième chose. La chambre de Tobija, c'est une prison dont la plupart des fois on veut se débarrasser. Elle vous fait mal, mais vous ne savez comment vous en débarrasser. Nous le verrons tout à l'heure, il y avait un lien assez compliqué entre Eliashib et Tobija. Lié. Cette chambre, des fois, vous décidez, je veux la détruire et puis vous la gardez encore. Vous souffrez, vous dites, le jour où on va la découvrir, j'essaierai essuyer. Vous levez la décision, une décision, peut-être même le 31 décembre. Seigneur, la chambre ici, je vais la détruire. J'entrerai pas en 2015 avec cette chambre. Deux semaines, trois semaines, vous ne l'appelez pas. Vous ne la visitez pas et puis début février, je voulais juste avoir de tes nouvelles. Et c'est reparti. Je sers le Seigneur, je ne dois plus laisser mon corps être touché par un homme qui n'est pas mon mari. J'ai pris la décision de cesser de sortir avec les maris d'autrui. Ça tient jusqu'à ce que quelques problèmes financiers se présentent. Je veux simplement l'appeler pour qu'il m'aide, mais on n'ira pas plus loin. Je suis chrétien, non? Et puis il t'invite, non pas dans une église, il t'invite dans une chambre d'hôtel et tu te mets même à prier en colo. Même si on va là-bas, qui ne me touche pas. Prisonnière, prisonnier. Quatrième chose concernant cette chambre, elle peut être cachée aux yeux des hommes, Dieu la connaît. Vous savez, c'est coûteux d'être hypocrite. Paraître coûte cher. Être est moins cher. Paraître demande beaucoup d'efforts. On est obligé de faire disparaître des indices. Et il faut faire disparaître ces textos. parce qu'elle, elle fouille dans les téléphones. Quelqu'un a dit sur les 30 jours du mois, 29 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Il y aura toujours un jour où tu vas oublier quelque chose. Caché devant les hommes, mais pas caché devant Dieu. Cinquième et avant-dernière chose, cette chambre, elle n'est jamais éternellement cachée. Jamais. Comme nous le verrons tout à l'heure, les gens ne savaient pas. Il a fallu que Néhémie revienne. Et Néhémie prenne conscience qu'il y a un endroit qui ne devait pas être. Et c'est le jour où il a jeté les effets de Tobie Jador que les gens ont su. Nous ne savons pas que tu triches, nous te voyons servir Dieu. Quand cette fiancée tombera enceinte, nous saurons que vous étiez des tricheurs, et même des tricheurs avec T majuscule. Jamais éternellement caché. Sixième et dernière chose, découvert, elle déçoit. Chaque fois que cette chambre est découverte, c'est la déception. Les commentateurs disent combien les gens étaient déçus d'Eliashib quand ils ont appris que c'est lui qui entretenait Tobija. Dans une cachette, les nourrissons au frais du temple. J'aborderai cet enseignement ce matin en trois points. D'abord, je parlerai de Tobija. Qui était-il? Qui était-il pour le peuple juif, pour Néhémie, et en rapport avec l'effort et le travail de reconstruction. Mais deuxièmement, je parlerai de la chambre de Tobija. Ce qu'elle était et ce qu'elle représente aujourd'hui. Et je terminerai en disant, comme troisième point, comment gérer la chambre de Tobija et réagir en face d'elle. Mais avant d'aborder ces trois points, j'aimerais établir quatre principes comme fondement de cette intervention. Le premier principe, c'est que la vie et la marche chrétienne ne se limitent pas au début. Ne se limitent pas au premier pas, quelquefois glorieux, merveilleux. La Bible parle de ce jeune homme et il encourage, tu as fait une belle confession devant Dieu et devant les hommes. Combien de fois la marche chrétienne commence avec enthousiasme, un changement radical, on tourne le dos au mal, on ne veut même plus s'y approcher. Il y a les ailes pour Dieu, il y a la passion, il y a la ferveur, mais en même temps il y a la haine du mal. Christ est et devient le centre de notre vie. Et on peut dire comme l'apôtre Paul, tout ce qui était pour moi un gain, je le regarde désormais comme une perte, et même comme de la boue à cause de Christ. La vie et la marche chrétienne ne se limitent pas au début. La vie chrétienne, c'est aussi savoir maintenir cette qualité du début, avec la crainte de Dieu, l'abandon du péché et des œuvres mortes, savoir maintenir cela jusqu'au bout. J'aimerais vous poser la question, me poser la question, nous poser la question, êtes-vous les mêmes? Des fois on fête les anniversaires, j'ai 30 ans dans le Seigneur, 25 ans dans le Seigneur, 20 ans, 10 ans, 5 ans. Qu'en est-il de votre qualité de vie? Combien de fois n'ai-je pas vu les gens augmenter en année dans le Seigneur? Mais la qualité de vie qui se perd. Seigneur, donne-nous des gens spirituellement qui sont comme Caleb, qui peuvent dire, j'ai autant de vigueur aujourd'hui que j'en avais autrefois. Ma sainteté n'a pas baissé. Mon zèle pour Dieu n'a pas baissé. La vérité est toujours mon partage, comme au premier jour de ma foi. Ma haine du péché est la même. Donc Galates 5, 7 à 8 que nous avons mentionné, l'apôtre fait montre de tristesse et il en appelle à la conscience des Galates qui avaient bien commencé. Et il a appris des écoles, non seulement comment ils se sont petit à petit arrêtés, Mais bien plus encore, ils ont rétrogradé. Il leur dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Et c'est la question que Dieu me dit de te poser. Tu courais si bien. Qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Mais il insiste en disant, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Vous savez qu'on peut augmenter en responsabilité et diminuer en sainteté. La version Alfred Quinn, ou Parole vivante, parlant du même passage, dit, votre vie des fois avait pris un bon départ. Vous couriez si bien, qui a brisé votre élan? Qu'est-ce que j'aime cette traduction? Qui a brisé votre élan? Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? En tout cas, soyez-en certains, dit l'apôtre, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Deuxième principe et deuxième fondement, bien débuter ne suffit pas. Bien débuter la vie chrétienne, bien débuter la vie du ministère, bien débuter la vie de couple, bien débuter une entreprise ne suffit pas. Ça ne suffit pas si tous les efforts du début peuvent être annulés et annihilés par une mauvaise continuation et surtout une mauvaise fin. Il est étonnant, en lisant Ecclésiaste, chapitre 7, au verset 8, le sage dit quelque chose de profond. Écoutez ce qu'il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il accorde plus de crédit, plus de valeur à la fin qu'au début. Il veut dire, un début c'est bien, mais une fin c'est mieux. Que des gens qui ont fait confession des fois avec moi. Je me revois encore jeune homme, 21 ans, 22, 23 ans, à la jeunesse de là-bas, nous aimions le Seigneur, nous attachons. J'ai vu des gens qui ont bien commencé avec moi. Et quand j'entends les choses qu'ils font aujourd'hui, j'ai difficile à croire. Je me souviens d'un ami avec qui on a servi le Seigneur avec zèle. Quand il prêchait, c'était la sainteté faite homme. Quelquefois, je me souviens, quand il prêchait, il prenait le microphone, il disait, ça sent le péché ici. Un jour, je suis dans un pays loin d'ici, je demande à l'aîné qui nous a influencés tous, comment va-t-elle? Il dit, tu ne peux pas croire. Il vit maintenant en Amérique du Nord et sa spécialité, ce sont les prostituées. Il y a deux jours, on m'a donné un numéro de téléphone en disant que je pouvais l'appeler. J'ai appelé et je suis tombé sur une jeune dame. Il dit, en parlant avec, j'ai compris qu'elle avait l'accent jamaïcain. Il dit, votre monsieur dort parce qu'on a passé toute la nuit à s'amuser. Il dit, toi, tu es qui? Il dit, je suis sa cliente préférée. Et puis, il dit, je lui ai posé la question, est-ce que tu sais qu'il est pasteur? Il a dit, qui? Passe quoi? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La version La Colombe dit, mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement. Tob dit, mieux vaut l'aboutissement d'une chose que ses prémices. Frères et sœurs, la grande question que j'aimerais nous poser, j'ai mes places dedans, comment allons-nous finir? Le jeune roi Saül avait bien commencé. Il a commencé par être presque un prophète de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu deviendras un autre homme. Mais il a fini consultant les magiciennes. Bizarre, on ne peut pas associer cela à la même personne. Il a fini dans les suicides, se jetant sur une épée et se donnant la mort. Comment vas-tu finir? Comment vais-je finir? Ozias avait bien commencé dans la fidélité d'avec Dieu, s'attachant à Dieu. Il a servi Dieu et il a vu la main de Dieu l'enrichir. Mais il a fini désobéissant à Dieu et frappé par ce même Dieu qu'il avait béni et il est devenu lépreux. Quelle tristesse! Salomon avait bien commencé ayant la vision du Dieu très haut. Tellement proche de Dieu que Dieu lui donne même un chèque en blanc. demande ce que tu veux. Mais il a fini polygame, et non seulement polygame, il a fini idolâtre. Plusieurs femmes étrangères, mais au-delà des femmes étrangères, il a commencé à bâtir un temple pour chacune de ses femmes. Il y avait au soir de sa vie deux monuments, les monuments de sa grandeur, de l'époque de sa proximité avec Dieu, les temples d'Israël, de Jérusalem, mais tout autour, les symboles de sa déchéance avec plusieurs autres temples, et toutes ces choses se regardaient face à face. Comment vais-je finir? Je prie que comme l'apôtre Paul, au soir de ta vie, au soir de ma vie, au soir du ministère, que je puisse dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Salomon, il a fini. Je disais, jouisseur, polygame et même idolâtre. Écoutez ce que 1 Roi, chapitre 11, verset 9 nous dit. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Et bizarre, 1 Roi, chapitre 11, 14 à 23, le même Dieu qui le protégeait, qui lui avait accordé du repos de tous côtés, la Bible nous montre que ce même Dieu a commencé à le susciter des ennemis, fâché contre lui. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dans Hébreux au chapitre 13, au verset 7, l'apôtre met aussi en exergue la fin ou la finalité et demande même que nous puissions imiter. Écoutez ce qu'il dit. Souvenez-vous de vos conducteurs. Et quand il dit souvenez-vous de vos conducteurs, parlez forcément de leur début. Souvenez-vous de ceux qui vous ont annoncé la parole. Il dit considérez quelle a été leur fin et imitez leur foi. Si vous voulez oublier leur début, regardez leur fin. Quel genre de fin ils ont eu. Troisième principe et fondement. Nous devons être conscients d'une chose. Nous sommes engagés dans un combat avec un adversaire coriace, combatif, rusé et qui ne lâche jamais. C'est le diable. Nous avons quitté son camp en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il ne s'avoue jamais vaincu. La plupart des fois, j'ai vu, après que nous ayons fait acte de foi, nous quittons certaines choses, un certain style de vie, le diable reviendra toujours nous attaquer dans les domaines qui étaient nos faiblesses autrefois. Et j'aimerais vous dire, ça fait des années qu'il est dans la carrière, il connaît. Vous connaissez cette histoire de ce jeune homme nouveau converti près de 6 mois, plein de zèle. Et les jours où on le fait descendre dans les eaux du baptême, quand il ressort, il dit à son pasteur, « Pasteur, je t'ai dit, le vieil homme, il est resté là, et pour toujours. » Le pasteur a dit, « Gloire au Seigneur. » 3 mois après, le pasteur le revoit. « Qu'en est-il avec le vieil homme ?» Il dit, « Toujours dans l'eau, bien noyé, attaché avec une grosse pierre. » Mais 6 mois après, les pasteurs les retrouvent, les traits tirés, l'air triste. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es retombé dans les péchés d'autrefois. Écoutez sa réponse. Pasteur, je ne savais pas que les vieil hommes savaient nager. Le vieil homme est un bon nageur. Il ne s'avoue jamais vaincu. Il reviendra dans les mêmes faiblesses. Quelqu'un a dit, le diable, c'est comme un pêcheur. Il connaît les appâts qu'il faut pour tel poisson. Le diable, c'est un stratège. Il sait que pour attraper un coq, une poule, il faut des grains, des riz. Il ne faut pas préparer du cabri. Il sait ce qui peut t'attirer. Il te connaît tellement. Il a ton CV. Il peut regarder et dire Ken Basia Pembe l'autre côté. Tinele ya moins de zoto mike. Au moment où on a commis au sein de tout ça dit ça. Il connaît ce qui frappe tes yeux. Il sait que non, celui-là, c'est ces gens. Il te connaît. Il a un CV. Il a un bureau d'études. Il y a des jeunes filles, quand elles passent, tu as l'impression que c'est un auto blindé. Ça ne te dit rien. Mais d'autres, toi-même, tu commences à chanter. Sungangaye, sungangaye. Aide ton serviteur engagé dans une bataille. Je disais, chasser de notre vie, il cherche et cherchera toujours toutes sortes de moyens d'y revenir, par la force, par la ruse et par les moyens détournés. C'est pourquoi la Bible l'appelle le malin. Il est rusé. L'apôtre Paul, parlant de lui dans 2 Corinthiens 2, 11, dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Il parle des desseins, ça veut dire c'est un stratège, il est réfléchi. Il dit, ne donnons pas ça au diable car nous n'ignorons pas ses desseins. J'aimerais dire, le diable est réfléchi. C'est un stratège, un fin planificateur. Mon pasteur disait une fois, il dit, si le diable n'a pas beaucoup de vertus, il en a deux, la patience et la foi. Si tu as tendu un piège 99 fois et tu as surmonté cela, il viendra encore patiemment à la centième fois tendre un piège. Et il viendra à la centième fois avec foi, croyant que celui qui n'est pas tombé 99 fois, cette fois-ci, il finira par tomber. Nous sommes engagés dans une bataille. Dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 44, la Bible nous montre comment il opère, comment il ne s'avoue jamais vaincu définitivement. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par le lieu aride, cherchant du repos et n'en trouvant point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Le terme maison, là, ça veut dire résidence, l'endroit où on se sent le mieux. J'aimerais que tu saches que pour lui, tu es toujours sa maison. Qu'il a quitté, mais qu'il est prêt à réoccuper pour toutes sortes de raisons. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il avait dit, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il ne revient pas seul. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui et entre dans la maison, s'y établit. D'autres versions disent, s'enracine. Et la Bible dit, la dernière condition de cette personne est pire que la première. Et quand cela arrive, nous le verrons tout à l'heure, on voit se côtoyer la venue à l'église et les péchés. On a la Bible entre les mains, la confession de Dieu, mais le péché qui est toujours là. Et des fois des péchés plus graves que ce que l'on faisait avant. Quatrième principe et fondement. Il est possible de perdre des choses sur le plan spirituel et soit ne pas les savoir et les cacher. Quel état et quelle condition triste. Dans Juges chapitre 16 au verset 20, Samson a perdu non seulement ses cheveux, mais derrière ça, les symboles de sa consécration et sa force. Et quand Delilah vient annoncer, Samson, les Philistins sont sur toi, écoutez sa réponse, je me dégagerai, je m'en sortirai comme les autres fois. La Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Seigneur, s'il te plaît, s'il m'arrive de perdre des choses, aide-moi à les savoir. Assurance trompeuse, il croit qu'il continue à être celui qu'il a cessé d'être. Il croit qu'il continue à avoir ce qu'il a cessé d'avoir. Frères et sœurs, il y a deux types. Des personnes perdues. Premièrement, il y a des perdus notoires. Des perdus notoires et on les trouve en dehors de l'église. Ce sont des hommes et des femmes vendus au péché. Pas besoin de microscope pour voir et déceler leur vie de péché, de perdition. Ils vivent au grand jour dans les péchés. Ce sont des perdus notoires. Mais deuxième type de perdus, il y a des perdus à l'église. Perdus, mes pasteurs. Perdu conduisant les cultes, perdu responsable des départements, perdu partenaire et même partenaire qui donne le plus, mais perdu quand même. Perdu mais membre du comité, perdu mais ancien principal. Perdu mais conducteur de louanges, perdu mais chantre de l'Éternel. Ce deuxième type de perdus sont des personnes perdues, mais côtoyant la maison de Dieu. Ils sont comme ce qu'on appelle en métallurgie des alliages. Mélange entre deux minéraux, deux métaux, qui ont fini par faire un seul. Ils ont appris à faire cohabiter vie chrétienne et péché. Autant ils ne peuvent se passer du péché, autant ils ne peuvent se passer de l'Église. J'aimerais te poser la question, où étais-tu hier la nuit? Dans la boîte de nuit vers 23h, 1h. Non, de demain à 8h, ne me cherchez pas, je serai au culte à Philadelphie. La boîte de nuit a une grande place, mais l'Église aussi, c'est sacré. Comment peut-on faire ces choses? Comme je dis, autant ils ne peuvent se passer du péché, autant ils ne peuvent se permettre de mettre de côté la vie chrétienne. Ils viennent au culte, les activités spirituelles. Ils aiment autant le monde que l'Église. Comme je l'ai dit, ils peuvent passer toute la nuit dans une boîte de nuit et être au culte le matin. J'aimerais vous dire ce que vous cachez aux hommes, Dieu voit ça et connaît. Qu'il est étonnant quand le Seigneur parle à ces deux églises. La première, celle de Apocalypse, plutôt chapitre 2, versets 19 à 20. Et la seconde, celle d'Apocalypse, chapitre 2, toujours verset 2 à 5. Écoutez ce qu'il dit à l'une et à l'autre. À celle de Thyatire, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres qui sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner. Comment peut-on avoir la fidélité? Comment peut-on faire mon désel, mais en même temps laisser cohabiter Jézabel? La deuxième église, celle d'Éphèse, une chose triste est dite la concernant. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas, et que tu les as trouvés menteux. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Que c'est triste d'être de nouveau et de redevenir les sales qu'on était autrefois. Qu'il est triste d'être dans le Seigneur, mais de se retrouver enchaîné par les choses d'autrefois. On est autant menteur qu'on était avant la conversion. Le mensonge cohabite avec l'Évangile. Les mensonges même cohabitent avec les responsabilités. On augmente en responsabilité, mais le mensonge aussi est là. Qu'il est triste. Avoir autant donné dans le Seigneur et infidèle à sa femme. Est-ce que tu es fidèle à ta femme? Triste d'avoir autant donné dans le Seigneur. Mais comme l'apôtre dit, être retourné aux vomissures. J'aimerais vous poser la question, êtes-vous les mêmes? Suis-je les mêmes? Dans 2 Pierre, au chapitre 2, verset 22, l'apôtre Pierre dit, il leur est arrivé ce que dit les proverbes, les chiens, et retourna à ce qu'il avait vomi. La truie lavée s'est vautrée dans la boue. Des choses pour lesquelles tu avais fait une belle confession, je ne veux plus de ça. Tu es retourné petit à petit. Les cassettes pornographiques que tu avais cassées, aujourd'hui tu n'as plus de cassettes, mais ouvre ton téléphone. Ouvrons ton ordinateur. Les choses pour lesquelles tu avais dit ça, plus jamais. Qui était Tobija? Le livre de Néhémie nous le présente comme étant un ammonite. Ça, c'est la première indication qui est donnée. Les ammonites, c'était ces peuples descendants de Ben Ami, second fils de Lot, fruit de l'inceste entre Lot et sa deuxième fille, au sortir de Sodome et Gomorrhe. Nous trouvons les récits dans Genèse 19, verset 38. C'est de là que les Ammonites sont venus. Deuxième indication concernant les Ammonites, ils se sont associés avec les Moabites et avaient eu à payer Balaam pour maudire Israël. Et Dieu a décidé d'exclure les Ammonites de l'Assemblée de l'Éternel jusqu'à la dixième génération. Dieu n'en voulait pas. Deutéronome 23, du verset 3 au verset 4e. Mais qui était encore Tobija? Deuxièmement, Il est présenté comme un adversaire farouche, non seulement des Néhémie, mais du peuple de Dieu au moment de la reconstruction. Néhémie a appris la nouvelle à Suse, là où il était, de l'état calamiteux dans lequel se trouvaient non seulement les murailles de son pays, mais aussi les temples, et il décide de rentrer. Et le livre de Néhémie nous montre l'opposition ouverte de Tobija par rapport aux intérêts de Dieu. Néhémie chapitre 2, verset 10 et verset 19 nous parle de sa réaction lorsqu'il a appris que Néhémie mobilisait les gens pour rebâtir les murailles. Écoutez ce que la Bible dit. Sanballat, les Horonites et Tobija, les serviteurs ammonites, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher les biens des enfants d'Israël. Ils ont simplement appris. Pourquoi? Parce qu'ils profitaient de ces désordres. Non, il semble qu'il y a quelqu'un qui depuis quelque temps est venu, on l'a vu faire des consultations et il dit qu'il va redonner la ferveur d'autrefois à cette nation. L'abbé dit un déplaisir. La version française courante dit, ils furent très mécontents de ce que quelqu'un venait s'occuper du bien d'Israël. La version La Colombe dit, ils prirent très mal le fait qu'un homme soit venu chercher les biens des fils d'Israël. La version Torbe dit, ils furent très mécontents de savoir que quelqu'un venait se soucier de ce qui était bon pour les fils d'Israël. C'est ça, Tobija. Le verset 19 ajoute concernant Tobija, Sanballa les Horonites, Tobija les serviteurs ammonites et Geshem l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisa et dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre les rois? Quand ils ont appris que les premiers travaux ont commencé. Dans Néhémie chapitre 4, verset 3e, puis verset 7 à 8, la Bible nous présente encore Tobija à côté encore une fois de Sanballa. Il formait un duo satanique qui se moque des efforts de Néhémie et des Juifs. Écoutez, alors qu'ils sont en train de rebâtir, écoutez ce que la Bible dit. Tobija était à côté de Sanballa et dit qu'il bâtissait seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille. Ça ne va servir à rien. Ça n'ira nulle part. Moqueur. On veut remettre Dieu à sa place. On veut faire des choses qui feront que Dieu soit content. D'abord, ils sont mécontents et ils se moquent. Les versets 7 à 8 ajoutent, alors que Néhémie et les autres font un effort, mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Écoutez le verset 8, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. Toujours à l'affût de l'information, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à ce niveau, Tobija dit non, ça ne doit pas avancer. Il faut faire quelque chose pour arrêter cela. Néhémie chapitre 6, verset 1 à 2, puis verset 12 et enfin verset 19 nous donne encore des détails sur Tobija. Le verset 1 à 2 nous montre qu'avec Sanballat et Geshem, ils avaient médité de faire du mal à Néhémie à cause de son travail. Le verset 12 nous montre qu'avec Sanballat, ils avaient donné de l'argent à Noédia, la fausse prophétesse, pour qu'elle dise des faussetés. Le verset 19 nous dit que Tobija a envoyé des lettres pour effrayer Néhémie. Les commentateurs montrent que c'était des tracts, des fausses nouvelles, les connaissants. Ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Néhémie chapitre 6, verset 17 à 18, nous les présente comme un homme influent à l'époque du désordre. Il semble même qu'il avait tellement de moyens. Et comme il venait d'un peuple idolâtre, il pratiquait ouvertement les cultes des Kémosh ou des Moloch. Écoutez ce que la Bible dit. Dans ces temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui, car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekania. Le verset 19 dit, il disait même du bien de lui en sa présence et il rapportait les paroles de Néhémie à Tobija. Voilà Tobija, adversaire, ouvert, invétéré de Dieu et de sa cause. Et quand Néhémie arrive, il cherche l'intérêt de Dieu. Néhémie travaille durant 12 ans d'arrache-pied. Il remet les murailles. Esdras arrive aussi, les deux ensemble, ils rebâtissent les temples. Et après cela, ils commencent à mettre de l'ordre sur le plan spirituel. On se met à lire de nouveau les Écritures. Un courant des réveils commence parmi les peuples de Dieu. Et les commentateurs disent qu'à ce moment, Tobija a été exclu. Certains disent même qu'il est allé habiter un peu en dehors. Mais il avait tellement des intérêts qu'il revenait de temps en temps. Et puis un beau jour, comme l'avons lu, 12 ans après, Néhémie décide de retourner à Suse parce qu'il était chanson. Il avait demandé la permission auprès de son roi. Et permission lui est de nouveau accordée. Il est retourné. De Néhémie chapitre 7 à Néhémie chapitre 12, qui couvre une période de 9 à 10 ans, période durant laquelle, après les murailles, Néhémie associé à Esdras, qui l'a rejoint, ont travaillé à la reconstruction du temple. Ils ont remis de l'ordre, comme je l'ai dit. Les chapitres 7 les démontrent comment ils ont remis de l'ordre. Les chapitres 8 montrent comment il y a eu reprise de la lecture de la loi et reprise de la célébration des fêtes de l'Éternel dans la fête des tabernacles. Le chapitre 9 plutôt montre qu'un grand mouvement de réveil parmi le peuple à cause de la lecture de la parole de Dieu. Le chapitre 10 de Néhémie nous montre le renouvellement de l'alliance devant Dieu. Et l'on prend la résolution désormais d'entretenir les lieux du culte. Retour des prémices, les offrandes comme prémices sont des retours après autant d'années. Reprise du travail des sacrificateurs et des lévites. Le chapitre 11 nous montre désormais la répartition des revenus des habitants de la captivité entre Jérusalem ainsi que les provinces. Et le chapitre 12 nous montre la dédicace des murailles de Jérusalem et surtout reprise des revenus pour les sacrificateurs. On commence de nouveau à payer les sacrificateurs. À payer les lévites. Pourquoi? Parce que désormais, il y a de l'argent dans la maison de Dieu. Et comme je l'ai dit, Néhémie chapitre 13, verset 6, nous donne une indication importante. Après ces choses, Néhémie retourne auprès du roi Artaxerxès à Babylone. Lorsque Néhémie était là, deux choses s'est passées. Premièrement, il assumait un leadership à la fois politique, mais il assumait aussi un leadership quasiment exécutif. Mais à ses côtés, il y avait Eliashib qui assumait le leadership spirituel, mais qui était sous lui. Ils formaient un duo. Et quand nous lisons Néhémie chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 12e, nous voyons même qu'Eliashib a participé, tous les vites et sacrificateurs qu'il était, il a participé manuellement à la reconstruction des murailles. Mais Néhémie est parti. Combien de temps a-t-il été absent? Cela n'apparaît pas clairement dans la parole de Dieu. Certains commentateurs parlent de 2 ans, d'autres parlent de 4 ans. Certains vont même jusqu'à dire que 5 ans se sont passés. Et quand il est parti, comme il formait un duo avec Eliashib, on n'a pas remplacé, c'est Eliashib qui désormais assumait les deux responsabilités. Responsabilité à la fois spirituelle, mais responsabilité aussi politique. J'aimerais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement pour dire que le leadership est inné. Il y a des gens créés par Dieu être des numéros 1. Il les a équipés, il leur a donné des aptitudes. Mais deuxièmement, il y a des gens condamnés à être éternellement des numéros 2. Malheur à vous si vous en faites des numéros 1. Et malheur à eux-mêmes s'ils estiment qu'ils peuvent. Remarquez, le veau d'or n'a jamais été fabriqué sous Moïse. Pourquoi? Parce qu'il avait les leaderships. Si les gens osaient aller, retournez avec vos propositions. Mais à peine 40 jours d'intérim. 40 jours simplement, il est sur la montagne. Et Aaron reste, le peuple vient. Et Moïse retourne, il trouve la fête. Quand il lui pose la question, qu'en est-il? Il dit, tu connais ce peuple, il est au couroide. Ces mêmes peuples, moi, je les dirige. Voici ce qu'ils m'ont demandé. Mais troisièmement, il y a des gens appelés à être des numéros 1, mais ils doivent être coachés longtemps jusqu'à ce qu'ils progressent. Et malheur à nous si nous les propulsons trop tôt. Philadelphie, on a dit, nous avons un gros dirigeant. On a ça, j'ai dit souvent aux jeunes gens qui sont à côté de moi, la partie la plus facile du ministère, c'est la prédication. Le reste, c'est trouver des solutions. À ces 1000 personnes que vous êtes avec, vos cas compliqués. Chacun veut être reçu par les pasteurs titulaires. Et des fois, c'est dur en sagesse. Hein. Quelqu'un vient parler du problème qu'il a avec l'autre. Quand il termine de parler, tu dis non, lui, il a raison. Quand l'autre vient présenter sa facette, tu dis est-ce que c'est le même problème? Et si tu manques de sagesse, tu ne sais comment diriger. Eliashib sûrement n'avait pas la capacité d'être un numéro un. Et il est resté. Néhémie est parti. Est-ce 2 ans? Est-ce 4 ans? Est-ce 5 ans? Dans tout le cas, quelques temps après, Néhémie revient à Jérusalem. Conscient que j'avais fait un travail, il voulait voir jusqu'où ce travail progresse. Il passe, il voit les murailles, il voit les temples, il a l'impression que tout va très bien. Il pose la question aux gens, est-ce que vous voyez encore Tobie? Les gens disent, ouf, depuis que tu l'as maîtrisé, il n'est plus là. Et les commentateurs disent même, il est allé poser la question à Eliashib. Qu'en est-il, le Tobie? J'ai dit, ouf, éradiqué. Jusqu'au jour, un jour, Néhémie inspectait simplement les chambres du parvis. Qu'il trouve dans un coin, Tobija, bien assis. Et à quel endroit? Endroit où on garde les choses sacrées. Les dîmes, les salaires. Je vois la colère de Néhémie. Il veut dire, tout ça pour qu'on en arrive là. Tous ces sacrifices, toute cette énergie. En plus, on lui donne une chambre. Et où? Dans la maison de Dieu. Dans le lieu sacré. Tout le monde ignore qu'il est là, mais lui, il est là. Il consomme les dîmes et les offrandes des enfants d'Israël. En rigolant, quand il vient donner la dîme, il n'a lié qu'à dîme, il n'a bien. Mais l'adversaire de Dieu, l'ennemi du peuple de Dieu, habitant une chambre dans la maison de Dieu. Néhémie 13, 1 à 3, dans ces temps-là, il est dit, on lut en présence du peuple de Dieu le livre de Moïse, et l'on trouva qu'il était écrit que l'Ammonite et les Moabites ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Le verset 3 dit, lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Et ça, c'est les choses qui se sont passées après Néhémie. Eliashib, il est partagé. C'est un souverain sacrificateur. Il a le cœur de Dieu. Il ouvre les Écritures et puis il retrouve ça. Que les Ammonites et les Moabites ne peuvent pas cohabiter. Mais comme nous le verrons, il avait un problème. Certains disent que son fils était marié à un enfant de Tobija. Donc il y avait un lien par alliance. Alors il décide de chasser tous les Ammonites, sauf Tobija. À ses yeux, Tobija, c'est un Ammonite spécial. C'est un Ammonite, certes, mais c'est quand même mon beau-père. C'est ma belle famille. Il fait partie de ceux pour qui Dieu a dit, vous n'aurez point de relation avec eux, mais on a des relations assez spéciales. Néhémie 13, 5 dit, Eliashib avait disposé pour Tobija une grande chambre. Certains disent que Tobija n'avait pas demandé cela. C'était son initiative. Où l'on mettait auparavant les offrandes, les ustensiles, la dîme du blé, du mou. Le verset 7 ajoute, et quand Néhémie rentre, il dit, je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. Pour les communs du peuple, les murailles étaient rebâties. Les temples étaient reconstruits, les cultes revenus, les sacrificateurs et les lévites de nouveau au travail et contents du salaire qu'ils recevaient. Mais ce que le peuple ne savait pas, c'est qu'à l'intérieur, il y avait l'interdit. À l'extérieur, tout allait apparemment bien, mais dans une des chambres, et quelle chambre, s'est caché l'adversaire de Dieu et de son peuple. Et les combles, c'est avec la complicité de l'homme de Dieu, quelle honte. Dans 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 2 verset 7, l'apôtre dit, nous ne falsifions point la parole de Dieu comme le font plusieurs. 2 Corinthiens 4, 2 que j'ai mentionné au début, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Qui es-tu en secret? Qui suis-je en secret? Les commentateurs disent qu'Eliashib faisait un effort pour que les gens ne sachent pas que Tobija est là. Et l'apôtre Paul ajoute, non seulement nous rejetons les choses qui se font en secret, nous n'avons point de conduite astucieuse. Nous n'avons point de double conduite. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La version Alfred Coyne dit, nous rejetons les méthodes secrètes, les voies cachées et tout ce qui se trame dans l'ombre. Nous n'avons rien à dissimuler, rien à rougir. Tout à l'heure, quand je vais lancer un triple appel, j'en appellerai à notre sincérité. À ta sincérité, à la mienne. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 12, l'apôtre dit qu'il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Qu'il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Qui suis-je loin des regards des gens? Qui suis-je là où personne ne me contrôle? Qui suis-je loin de ma femme? Qui suis-je loin de mon pasteur? Qui suis-je loin de mes collaborateurs? Qui suis-je quand je voyage? Qui êtes-vous? La chambre de Tobija, qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle représentait d'abord à l'époque? Et qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui? Je vais petit à petit aller vers la conclusion de mon message. La chambre de Tobija représente 9 choses. Elle est représentée, elle représente 9 choses. Premièrement, la chambre de Tobija représente ce qui ne doit pas être là, mais qui est là. Des choses qui ne doivent pas être là. As-tu des choses qui ne doivent pas être là? Enfant de Dieu, servant Dieu, marié légalement, mais vivant sa sexualité basée sur la pornographie. Oh, mais on les fait dans le cadre du couple. Est-ce que vous êtes chrétien jusque dans votre intimité? Les choses qui sont là et qui ne doivent pas être là. Deuxièmement, la chambre de Tobija représente ce qui ne concorde pas avec l'appartenance à Dieu. Et la marche avec lui, mais qu'on accepte et que l'on tolère. Que des choses que l'on tolère. Que des choses qu'on l'on laisse à côté la chambre de Tobija. Je peux venir à l'église et être un grand tricheur, faire des faux vrais reçus, faire partie d'une chaîne de tricherie, là dans cette entreprise publique, et justifier cela de toutes sortes de manières. Troisièmement, la chambre de Tobija représente ce que nous cachons aux yeux des gens, mais que Dieu voit. C'est pourquoi nous faisons un effort pour que personne ne soit au courant. Les cultes finis aujourd'hui, tu dis à ton épouse, j'ai un travail spécial à faire. Je dois aller retourner encore au bureau. Oh, qu'est-ce qu'on nous challenge. De 11h à 16h, on doit travailler. Ce que ton épouse ne sait pas, c'est que tu as fixé rendez-vous à une jeune fille de 19 ans à Maya Pembe. Et vous savez, il y a toujours des reportages à ces endroits. Et puis voilà une caméra qui passe quand tu vois, tu commences à tourner. Tu dis, madame, peut regarder la télé. Elle va dire, c'est ça le bureau? Je me souviens d'un homme qui m'a dit, pasteur, un jour j'ai fait grand et petit besoin dans les habits. Il entretenait une relation avec une jeune fille et il niait toujours. Vous savez, les chauffeurs, ils voient et connaissent beaucoup. Il devait aller en mission de service, quelque part pour 14 jours. Et puis il est parti, sa femme lui a dit, tu vas avec qui? Non, je vais avec 2 autres amis. Et quand ils sont rentrés, madame a dit, je ne sais pas, j'étais tellement content, j'ai servi les chauffeurs un bon repas. Vous savez, après un bon repas, les langues se délient. Madame, n'est-ce pas, je suis en train de faire un bangre. Patrouille, je suis en train de maman, je suis en train de faire. La dame a gardé ses crédits. 3 jours après, mon mari arrive là. J'appelle. J'attends comme une bruit. Quels sont les bruits qui sont derrière? Non, c'est la dame des chambres qui est en train d'arranger. Et la dame allait toujours chercher son mari à l'aéroport. Tu reviens tel jour, est-ce que je peux venir te chercher? Non, non, non. Parce que directement après l'aéroport, on ira pour une séance de travail. La dame dit, j'irai à l'aéroport. Et non seulement qu'elle va à l'aéroport parce que son mari avait des responsabilités, elle a payé, on lui a donné la possibilité d'être, de voir les Tamar. Et le mari descend en amour, il vient de passer 15 jours. La main dans la main. Le monsieur m'a dit, dès que j'ai vu ma femme, je ne savais plus, je renvoie. Vous savez, quand on vous attrape, c'est terrible. Hein? Et il a avoué, dit, j'ai fait grand et petit besoin. Du coup, et dit les combles, j'aurais voulu aussi que madame me frappe, que madame réagisse violemment. Il n'a même pas réagi violemment. Elle est simplement venue m'embrasser. Il a embrassé l'autre. Le voyage s'est bien passé. Je suis venu simplement vous accueillir, que Dieu vous bénisse et les partez. Le mari dit, je suis rentré au bureau. 15h, 20h, 20h. Je commençais à préparer un enregistrement. On dingue, nini. Et justificatif, et quand je suis rentré, je suis descendu du véhicule à genoux. Bosanara Ragnoso, Tokoli Sabana, Bana Pesi Bakoli. Je suis venu déclarer comme votre pasteur, la saison des tricheurs à Philadelphie est finie. Oh mes tricheurs, je l'ai dit. Tika, sinon t'es bako kanga yo. Na lobby bako kanga yo. Dis à ton voisin, sur les ayo bako kanga yo. Pasteur Nangaï Moutalobi Ango. Troisième chose que la chambre de Tobija représente. Quatrième, c'est ce que nous sommes et faisons loin des regards des gens. Ce que nous sommes et faisons loin des regards des gens. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Qui sommes-nous réellement? Cinquième des choses, la chambre de Tobija représente ce que nous n'arrivons pas à assumer à cause de son contenu malsain. Eliashib, pourquoi tu ne fais pas une maison aux vieux et aux sud de tout le monde? Tu sais que les gens ne seront pas d'accord. Ils connaissent Tobija. Ils connaissent le mal qu'il a fait. Parce que tu sais que tu ne peux pas assumer. Tu les fais en cachette. Sixième chose, la chambre de Tobija représente ce pourquoi nous trouvons toutes sortes d'excuses et d'échappatoires, mais que notre conscience nous reproche. Mon pasteur me disait, on peut mentir à tout le monde sauf à sa conscience. On peut se défendre bec et ongle. Votre pasteur vous appelle. J'ai appris que tu as des relations assez louches avec la petite soeur de ta femme. Tu t'es même à pleurer. Pasteur, tu me soupçonnes. Et en pleurant, la petite voix te dit, vous sortez quand même ensemble, non? Qu'il est bien d'avoir une conscience tranquille. Septième chose que la chambre de Tobija représente, c'est que loin du regard des hommes empoisonne notre relation avec Dieu, notre service et la qualité de celui-ci. Ceux qui ont la chambre de Tobija ne servent jamais le Seigneur avec quiétude. Quand ils doivent servir le Seigneur, la conscience leur dit, toi avec ces choses, tu peux vraiment. Et ils se mettent ici en commençant à confesser, Seigneur, ne me traite pas selon. La Bible déclare, si tu gardais le souvenir de nos iniquités, qui subsisteraient. Une jeune fille me dira un jour, j'étais dans une chorale, pas ici en train de conduire les cultes. Et juste au moment où j'entendais le meilleur chant, un de mes patrons que je ne pensais jamais venir au bureau, avec lequel j'étais allé 3 fois, il est rentré au culte juste en face. Et j'ai vu par la manière dont il parlait, il disait, tu vois la fille là dont je t'ai parlé, c'est celle-là. Il dit, l'onction est partie. C'est comme une chambre à air, on a mis une aiguille. Conscience, qui êtes-vous? Qui suis-je? Huitièmement, la chambre de Tobija représente un stop et un frein dans notre progression spirituelle. représente les choses qui nous bloquent. L'apôtre dit, débarrassons-nous de tout péché qui nous empêche de courir dans la carrière. Et puis enfin, neuvième chose, la chambre de Tobija représente ce que nous entretenons et qui un jour, si nous ne nous en débarrassons pas à temps, risquerait de nous détruire. Parce que Tobija n'est jamais un locataire passif. Il a vu comment il a perdu des intérêts à cause de nous. Il a vu comment nous l'avons humilié. Il s'est dit, un jour je vais réagir. Frère, la Bible dit, ton péché t'atteindra. Ton péché t'atteindra. Je terminerai par cet exemple. Tout à l'heure, puis je lancerai mes trois appels. Comment gérer la chambre de Tobija et comment réagir en face d'elle? Comment faire cela? Juste trois choses. Premièrement, savoir comme Néhémie qu'elle existe. Que des gens qui l'ont et qui sont habitués à elle, qui ne savent plus qu'elle existe. Ils ont normalisé cela. Ça fait partie de la vie normale. Deuxième chose à faire devant la chambre de Tobija, savoir et être conscient qu'elle est un danger pour nous, pour notre présent et pour notre avenir. Celui qui, comme Tobija, nous a combattus hier en permanence et que nous avons humilié, ne pourra jamais devenir notre allié. Si nous l'entretenons, tôt ou tard, il cherchera à se venger. Troisième chose, comment réagir face à la chambre de Tobija? Faire comme Néhémie. Déloger son occupant. Sans ménagement. Déloger. Néhémie 13, verset 8 dit, j'en éprouvais un vif de plaisir et j'ai jeté hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Mais deuxièmement, remettre à la place ce qui devait s'y trouver. La Bible déclare, j'ordonnais qu'on purifie les chambres et qu'on puisse replacer les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'aimerais déchasser le locataire appelé Tobija et remettre à la place celui qui doit y être. Que c'est merveilleux et apaisant lorsque toute la maison ainsi que toutes les chambres sont occupées par des choses saintes et relèvent de l'autorité de Dieu. Quelqu'un a dit, si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. En terminant ce message en ces douches de ce jour, avant de lancer mon triple appel, j'ai dit ces deux choses. La première, la chambre ou la cachette de Tobija n'est pas une fatalité. On peut l'éviter dès le départ. Normalement, il ne doit pas exister. C'est pourquoi maintenir les standings de la conversion. Normalement, il ne doit pas exister. Deuxième des choses, nous avons le choix en ces jours entre être un Eliashib qui, tout en servant Dieu, entretient Tobija à un endroit sacré ou être un Néhémie qui détecte Tobija et qui les jette dehors. J'en ai souvent parlé ici, mais ça m'est tellement revenu. Je me retrouve en 99 prêchant l'évangile à l'est de notre pays, à Bukavu. Je termine ce soir-là de prêcher. J'ai parlé avec un homme de 19h à 0h. Il pleurait, ça coulait des yeux, ça coulait des narines. Il me disait, Roland, c'était un mercredi, dit, depuis dimanche, je pense au suicide. Qu'est-ce qui s'est passé? Marié avec sa femme depuis plus de 15 ans, ils avaient deux enfants. Je n'ai jamais oublié le petit garçon Gaylor. Il dit, j'étais un impudique avant ma conversion, mais après ma conversion, ça s'est arrêté. Et même quand j'ai commencé à servir Dieu. Mais il dit, il y a 2 ans, la petite soeur à ma femme est venue habiter chez nous, 16 ans, 15 ans et demi, 16 ans. Ma femme faisait un commerce, de temps en temps, elle va à Dubaï pour 3 jours, elle revient, elle va en Ouganda. Je restais avec la jeune soeur de mon épouse. Je me rendais simplement compte qu'elle était, permettez-moi les termes, plus fraîche physiquement que ma femme. Elle avait la désinvolture des jeunes filles, des fois elle peut mal s'asseoir. Elle ne connaissait pas les pouvoirs du corps. L'effet que ça peut avoir sur l'homme. Et je commençais à regarder, je disais, son... Le soir, je viens regarder la télévision, elle rentre fatiguée, elle s'échange. Permettez-moi d'en parler. Elle enlève son soutien-gorge et puis elle porte un habit de chambre, sans rien au-dessus. Elle n'a aucune idée que cette poitrine bien en place, ça peut attirer cet homme. Naïve, mais pas moins dangereuse. Je commençais à lui donner beaucoup d'argent qu'elle n'avait pas. Et puis, nous avons commencé à tricher. Plus d'une fois même, je disais, non, je ne dois pas le faire. Je suis un homme de Dieu. Et puis, c'est la petite sœur à ma femme. Mon pasteur, le feu Jacques-André Vernon, disait, le péché est une réalité ingérable. Avec le péché, on ne dira jamais, j'irai de là. Jusque là, je vais m'arrêter. Il dit, en 2 ans, entre guillemets, nous avons rompu 7 fois. Mais cette fois, on reprenait. Il dit, quelquefois, c'est moi qui ai décidé en rond. Et quand je retourne vers elle, elle-même, elle commence à me dire, mais tonton, tu veux dire que c'était fini, non? C'est moi-même qui reviens, non? Jusqu'à ce que cette petite tombe enceinte, une première fois, ils ont avorté. Pas vu des gens. Deuxième fois, pas vu. Troisième fois, pas vu. Et puis, quatrième fois, le pire est arrivé. Un soir vers 23 heures, la femme, alors qu'elles étaient dans leur chambre avec le mari, a seulement entendu un cri. Elle sort de la chambre, elle voit un fleuve de sang qui vient de la chambre de sa petite soeur. Quand elle arrive, elle trouve sa petite soeur en train de passer les dernières secondes. Dit, elle est morte 10 minutes après. Vous savez, les gens qui veulent mourir, elles ne veulent pas avoir la conscience chargée. Et les grandes soeurs, j'aimerais te demander pardon. Durant toutes ces années, les 2 dernières années, derrière ton dos, voilà ce que je faisais avec ton mari. On a avorté 4 fois. Pardonne-moi. Et elle est morte. La femme désabusée est allée parler aux responsables. Ceux qui connaissent un peu les églises implantées à l'Est par les missionnaires norvégiens, suédois, sont des églises très rigoureuses. Ce ne pas des mesures disciplinaires comme là où j'ai grandi. C'est des mesures disciplinaires comme j'ai vécu à l'église Nzambe Malam. Au dimanche, devant tout le monde, on dit Kingotolo, Yakawa. Matsanga, Yakawa. Batunama Sumu. Et Kobo Oyo, Yeyo. Ah, j'ai vécu ça à l'église pentecôtiste de Makamba. Quand on mettait les gens sous discipline, vous tremblez. Et tu commences à avoir une histoire avec une jeune fille, vous approchez un peu à la fin, quand il vient vers toi. Comme pour dire, on l'a mise sous discipline dimanche devant toute l'église. La chose qui m'a touché, il m'a dit, Roland, tu sais quoi? Cette nuit-là, vers 4 heures, ma femme a pris les cadavres de sa soeur, les 2 enfants. Et elle est partie, dit, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu mes enfants. J'ai perdu les ministères, j'ai perdu la crédibilité. Il y a Bukavu, je ne sais plus sortir dans les rues. La chambre de Tobija, elle n'est jamais cachée éternellement. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière.
Je suis touché.